De retour sur ce 110e anniversaire de la révolte des pêcheurs, aujourd'hui, le 4 septembre, ça débutait. Évidemment, ça a duré quelques deux semaines. On en parle avec l'historienne Véronique Dupuis, originaire de Rivière-Ronde-Arbre. Alors, on était au moment où il y a eu, un ultimatum lancé par les pêcheurs sur le fameux prix payé pour la morue. On avait donné deux jours et sinon, on s'emparait carrément des quatre marchands, des quatre magasins, et on mettait les propriétaires donc hors de Rivière-Ronde-Arbre. Et l'ultimatum, donc, était jusqu'au 6 septembre. Qu'est-ce qui s'est produit?
Voilà, le 6 septembre, au matin, à 7 heures, les pêcheurs arrivent au village de Rivière-Ronde-Arbre. Briand lui tente de fuir, mais il est rattrapé et encerclé. Là, on parle d'environ 400 hommes. Donc, on voit l'escalade du climat, l'escalade de la tension et comment la population s'est imprégnée ou était concernée par cet enjeu de pêche à la morue-là et cet enjeu socio-économique aussi. Donc, on rattrape et on encercle Briand, on le frappe et on le menace de mort. Et lui, ayant peur pour sa vie probablement, propose de discuter avec les trois autres marchands. Alors là, on repart avec Briand, on va chercher le marquand Kennedy et Romeril qui remplace Hyman, qui lui a fui à Gaspé. Et là, Romeril, lui, dans un élan de panique, affronte la foule et se dirige sur la plage d'où il tire un coup de fusil en guise d'avertissement. Mais les pêcheurs, déjà très en colère, commencent à tirer des roches et tout ça. Et là, Romeril, encore plus pris de panique, tire dans la foule et blesse Urbain Chrétien à la jambe, qui est un pêcheur aussi. Et là, Briand, qui a peur pour sa vie et celle de son collègue Romeril, assure que les demandes seront accordées. Et là, suite à tout ça, les pêcheurs exigent, et là, ça c'est très intéressant, l'élan aussi de collaboration, de coopératisme qui se dégage de tout ça. Les pêcheurs exigent évidemment un prix de quintal, un prix de 4 $ du quintal et l'engagement de Briand pour la William Fruing and Company à verser les 50 centimes manquants si les trois autres compagnies refusent le prix entendu. Donc, Briand devient un peu répondant des trois autres marchands. Un dédommagement de 20 $ par mois à Urbain Chrétien jusqu'à son retour au travail. Donc, on veut lui assurer un montant pour sa survie et la garantie de Briand et de Le Marquant que Romeril ne fuira pas comme Hyman l'a fait. Donc, c'est trois autres revendications qui sont faites de la part des pêcheurs qui marquent justement une espèce d'élan de collaboration et un autre type de demande aussi là.
C'est à partir du 7 septembre, où c'est la journée d'après, donc on a accepté les offres, on était évidemment contraints de les accepter, on comprend. Les manifestants étaient nombreux. Mais le 7 septembre, on entre dans une autre phase où des militaires arrivent justement pour ramener à l'ordre, en tout cas ce qu'on disait à l'époque, de mettre de l'ordre dans le village, si on veut, à Rivière-Ronde-Arbre à l'époque.
Oui, effectivement. Donc, le 7 septembre, ça va être le Christine qui arrive à Gaspé le 7 septembre 1909 avec à son bord 20 officiers et marins. Et à ce moment-là, les marchands font état de leur version des faits. Donc, on parle de violence, de pillage et de menace de mort. Et là, le capitaine May du Christine, en fait, envoie ses conclusions à Ottawa et décrète l'état d'urgence. Et puis, bon, le sous-ministre de la Marine, Georges Desbarats à l'époque, entend des échos de ce qui se passe à Rivière-Ronde-Arbre et ordonne au Canada de se rendre à Rivière-Ronde-Arbre. Le Canada est un plus gros navire de la Marine canadienne. Et là, on montre qu'on ne badine pas avec la situation. C'est un bateau muni de 4 canons à tir rapide. Il y a 75 officiers et marins à bord entraînés pour des opérations militaires. Donc, on veut agir de façon ferme de la part de la marine canadienne et de la part, on veut faire passer un message aux émeutiers, là.
Donc, des arrestations, je crois. Des gens qui ont été emprisonnés.
En fait, c'est au matin du 11 septembre que les opérations ont commencé. Le Christine et le Canada ont mis le cap sur Rivière-aux-Renards où une quarantaine de militaires sont débarqués pour fouiller les maisons. Donc, l'opération, le modus operandi était facile. On débarquait, on allait dans les maisons qui étaient désignées par les marchands, on la fouillait, on prenait les meutiers, on l'embarquait avec nous. Et en même temps, il y a eu une opération, des opérations là, à Lance-Avallo, à Pointe-Jaune, à L'Échouerie, à Petit Cap et à Lance-au-Griffon. Donc, c'était des opérations simultanées qui ont permis de faire 20 arrestations cette journée-là. Et à la fin de la journée, les hommes ont été portés en cellule à Percé.
Quand même, c'est pas rien. Et ces gens-là ont même passé devant le tribunal. Dans le fond, comment ça s'est conclu, tout ça?
Oui, en fait, le 13 septembre, il y a eu une autre vague d'arrestations. À minuit tapant, en pleine nuit, avec 27 hommes armés, il y a eu 7 arrestations. Donc, on est rendu à une vingtaine d'arrestations, là, pour cet épisode-là. Et le 16 septembre 1909 a eu lieu un procès expéditif, je pourrais dire, en anglais, sans rapport policier, ni témoignage de citoyens, de fonctionnaires, ni de pêcheurs. Et les seuls appelés à la barre ont été les marchands. Le procès s'est passé, oui, en anglais, mais dans un jargon qui était bien compris par les commerçants, mais à travers lequel les pêcheurs se retrouvaient en eau trouble carrément. Là. Les sentences sont tombées le 18 septembre 1909. Donc, 22 des 24 accusés ont été vus coupables d'émeutes, de lésions corporelles et de blessures graves. Et sur ces 22 accusations-là, il y en a 5 qui ont été emprisonnés pour une période de 8 à 11 mois.
Et les autres ont été libérés, c'est ça?
Oui, soit libérés sous caution pour la plupart. Et si je ne me trompe pas, il y en a 2 qui ont été libérés tout court, là, mais la plupart ont été libérés sous caution.
Alors, cette révolte des pêcheurs il y a 110 ans, avec un état d'urgence émis par le gouvernement, quand même, ça fait partie de l'histoire qui fait en sorte que c'est un peu le début, comme vous le disiez, en tout cas tout au long de notre entrevue, d'une certaine coopération entre les pêcheurs. Qu'est-ce qui s'est produit après ça? Donc, cette révolte-là a permis des avancées, là, c'est assez évident.
Oui, ben il faut pas négliger. On entend, je trouve, ça c'est mon opinion personnelle, mais je trouve qu'on entend très très peu parler de l'épisode de la révolte de Rivière-aux-Renards. Et en fait, c'est cet épisode-là qui a jeté les bases du coopératisme dans le Québec maritime au niveau des pêches. Alors, tout ce qui se passe au niveau coopératisme dans ces années-ci trouve racine en 1909, dans la révolte des pêcheurs. Et en 1923, il y a un nouvel évêque à Gaspé, qui est Mgr François-Xavier Ross, qui lui souhaite d'un libérer les pêcheurs du joug des marchands de morue et aussi améliorer leur situation parce qu'on voit, que le marché est en grande transition et on décide de fonder des coopératives de pêche. Et il y a une première entente qui est signée avec la Coopérative fédérée du Québec pour qu'elle achète la morue des coop en devenir. Donc, on prépare déjà le terrain et c'est le 19 août 1923 que les deux premières coopératives de pêcheurs voient le jour, donc à Cap-des-Rosiers et à L'Échouerie. Et ensuite, ben ça fait des petits, là, en 1926, il y a une douzaine de regroupements qui jonchent le territoire et qui rassemblent quand même le tiers des pêcheurs gaspésiens, qui n'est pas à négliger.
Bien, merci beaucoup, Véronique Dupuis, historienne de Rivière-aux-Renards, d'avoir bien voulu accepter notre invitation et nous raconter justement ces moments significatifs dans le secteur de la pêche et du début, si on veut, là, des coopératives pour les pêcheurs. Donc, ce retour sur la révolte des pêcheurs, ce moment historique qui a marqué l'histoire des pêches chez nous, en Gaspésie, donc Rivière-aux-Renards. Merci.
Ça fait plaisir.